Cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeodard, le 20 mars 1996.
Il m'a semblé très éclairant. La question première est donc, que dois-je faire pour être en règle ? Dans l'éthique de la construction de soi, le sujet peut toujours se conformer à des règles, et son souci est d'abord d'utiliser une morale pour mieux se construire, pour coïncider avec la représentation qu'il se fait de lui-même. Elle met l'accent sur le style au sens classique. Michel Foucault montre que ces deux modèles ont toujours existé. L'un jouait un rôle dominant, tandis que l'autre s'effaçait. Et cela alternativement. Je me suis servi de cette distinction pour montrer que les deux formes avaient coexisté à l'intérieur même de la morale chrétienne. Par exemple, les pères de l'Église et certains scolastiques, comme saint Thomas d'Aquin, se rattachaient volontiers à une éthique de la construction de soi. À la fin du Moyen Âge, avec l'apparition du nominalisme, qui comme la matrice de la modernité, nous voyons s'imposer une éthique du code. Elle s'est imposée pratiquement jusqu'à nos jours. Si la distinction de Michel Foucault est bonne, ce que je crois, elle nous permet de jeter un regard un peu naïf sur la crise de la morale chrétienne aujourd'hui. Car le rôle dominant joué par le code est en train de s'effacer. Il ne servirait de rien de continuer à se battre à propos des limites et des buts respectifs de la liberté humaine et de la conscience. Ce à quoi aspirent nos contemporains, de façon souvent obscure, c'est à une morale de la construction de soi, qui reste d'ailleurs à inventer. Il ne suffirait pas de ressusciter quelques visages anciens de ce modèle-là. Je trouve une preuve de ce que j'avance dans l'accueil extrêmement favorable que je reçois lorsque je parle de l'éthique de la construction de soi dans des groupes, dans des colloques, avec les étudiants de la faculté de théologie. Vous voyez, ce serait intéressant, puisque c'est sous le patronage du père Lustiger, je ne dois pas dire que le père Lustiger accepte entièrement ces distinctions-là. Dans quelle mesure ces distinctions-là de Foucault sont-elles fondamentales pour l'éthique ? Ou sont-elles comme un regard critique, historique, sur une évolution de la morale chrétienne ? Ou une évolution de la morale stoïcienne et chrétienne ? Et c'est intéressant parce que c'est au fond ce que nous cherchons. Nous sommes en pleine recherche actuellement, et on le sent très bien partout, sur ce qu'est l'éthique. Nous, je vous le dis tout de suite pour que vous compreniez bien, nous sommes partis de la finalité et non pas de la construction de soi. J'ai peur qu'en partant de la construction de soi, la distinction entre l'adgéré et le facere, entre l'aspect musical et l'aspect éthique, entre le point de vue de la beauté et de la bonté, entre le point de vue de la finalité et de la séduction, ne soit pas assez nette, que de fait dans l'homme se trouvent toujours les deux, l'aspect de la finalité et de l'aspect de la séduction, je crois. Mais il s'agit nécessairement de voir qu'est-ce qui est premier. Pas un balancement entre les deux, mais dans la réalité, où conduit une éthique de la séduction, où conduit une éthique de la finalité. Et nous sommes partis dès le point de départ de l'étude de la finalité, parce que je crois que la morale ne se fonde pas sur éthique, qu'elle se fonde sur l'estime de soi. Mais l'estime de soi, est-ce le point de départ de la morale? Est-ce le nœud de l'exigence morale? Quelle différence est entre l'estime de soi et l'amour de soi? Et est-ce que l'amour de soi fonde la morale? Ou est-ce que c'est l'amour de l'autre? C'est toutes ces questions-là, et c'est l'avantage de ça, c'est que c'est assez clair et donc on peut facilement le comprendre et voir si c'est juste. Si, à quoi on aboutit? Une morale de l'estime de soi, une morale de la construction de soi. Gérer le capital vital qu'on a en soi, est-ce le point de vue premier du point de vue moral? Ou est-ce le point de vue moral et avant tout de découvrir ma finalité? Vous retrouverez, je crois, sous-jacent, la différence entre une morale des valeurs, l'estime de soi, première valeur, se construire, morale des valeurs et morale de la finalité. Parce que la morale du code, on sait très bien, c'est au fond l'impératif catégorique de Kant à son sommet. Mais ce qui demeure très fort dans la culture allemande, le point de vue ancien et très fort, oui. Il y a quelques années, ça fait maintenant 25 ans, quand est arrivé le professeur de philosophie morale à Fribourg, c'était un laïc allemand qui a dit tout de suite qu'il était kantien et qu'il était aristotélicien et kantien. C'était la première déclaration qu'il a faite. La seconde déclaration, c'est que les anciens, eux, analysaient pour découvrir l'objet. Aujourd'hui, on étudie les méthodes. Seconde déclaration. Oui, c'est intéressant, parce qu'on voit comment on glisse à certaines positions. Et il disait, la morale kantienne, c'est la droite allemande, au plan politique. Et c'est une morale qui permet d'avoir quelque chose d'objectif dans l'impératif catégorique. Il y a au moins la loi. Et la loi est objective. Mais quand la loi n'est plus une vraie loi, qu'est-ce qui va me permettre de dire que c'est plus une vraie loi? Est-ce qu'on peut légiférer sur les avortements ou sur l'avortement? Savoir si cette législation est morale ou n'est plus morale, qu'est-ce qui va déterminer? Donc, c'est très vrai que la morale du code est quelque chose de tout à fait factice, parce que c'est oublier que le point de vue politique est toujours second au point de vue moral. Il n'est pas premier. ça à vos réflexions. Ce serait peut-être très intéressant de faire une grande question disputée après Pâques. Après que les conférences du carême ont été terminées, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a un tout, on ne peut pas juger sur une partie seulement. Voir, est-ce que cela tient la route pour l'aspect actuel ? Parce que c'est ça qu'on cherche, le père Brugès cherche ça, c'est un homme qui s'est consacré entièrement à l'éthique, mais voyez, c'est toujours la même chose. Une éthique qui n'a pas un fondement métaphysique, c'est toujours un peu l'anthropologie qui veut se construire pour elle-même. Et c'est toujours un petit peu le danger. Père Brugès connaît la métaphysique, mais la métaphysique scolastique, je ne crois pas qu'il connaisse bien la métaphysique. Il reste un moraliste, anthropologue. Ça, c'est une grande parenthèse de réflexion actuelle. Continuons notre réflexion sur une morale chrétienne, sur une éthique chrétienne. Nous avons vu le mystère de la mort du Christ et Jésus crucifié vit dans la grande lumière de Saint Jean des béatitudes évangéliques. Jésus nous donne les béatitudes évangéliques, non pas comme le code chrétien, mais comme le super code et le dépassement du code. Parce que ce qu'il y a de propre à la morale chrétienne, c'est de dépasser la loi, sans l'abolir, mais l'accomplir. Alors ça, c'est très net, puisque c'est dit expressément par Jésus. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'achever. Donc, c'est ça qui caractérise la morale personnelle du Christ. Le dépassement de la loi, c'est le point de vue de la personne. Là, on est tout à fait d'accord. Alors, est-ce que le propre de cette morale, c'est de se construire soi-même. Mais c'est la personne. Est-ce que c'est de se construire? Ou est-ce que c'est d'aimer en découvrant la finalité? Oui, que l'amour réclame une structure. Mais cette structure par l'amour est-elle se construire? Ou, de fait, se construire avec l'autre? Ce qui est le propre de l'amour. Se construire n'est pas nécessairement aimer. Chez les stoïciens, se construire est fondamental et premier. Mais ce n'est plus une morale de l'amour. C'est une morale de la volonté et de l'efficacité. C'est très net chez les stoïciens. Alors, il y a le baptême chrétien des pères de l'Église qui se sont beaucoup servis de la morale stoïcienne, c'est vrai. Mais attention, ce n'est jamais la morale stoïcienne qui a déterminé la morale des pères. C'est l'Évangile. Alors, ils ont pris des éléments du stoïcisme, c'est sûr. Et progressivement, ils ont pris des éléments néoplatoniciens. Et puis, Aristote, avec Thomas d'Aquin. La morale de Thomas d'Aquin n'est pas stoïcienne du tout. Et ce qui est très net, c'est justement que saint Thomas réhabilite les passions dans le Christ. C'est un des points sur lesquels Thomas d'Aquin est très très sensible. Ceux qui travaillent les manuscrits de Thomas d'Aquin au Soulchoir, il y avait à côté de ma cellule un grand spécialiste Thomas d'Aquin. De temps en temps, je l'ai regardé ce qu'il faisait et la manière dont il travaillait pour être en contact des manuscrits de Thomas d'Aquin. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que si, lorsque Thomas d'Aquin se pose la question, y a-t-il des passions dans le Christ, qu'on était en présence au vois-tu des manuscrits de la multiplicité des ratures de saint Thomas. Certains articles, saint Thomas, avant de l'établir, en avait raturé 3 ou 4. Ce qui était tout à fait particulier. Autrement dit, ça montre combien Thomas d'Aquin a dû s'acharner à réhabiliter que les passions n'étaient pas mauvaises en soi. En face du stoïcisme, si radicalement enraciné. Et c'est toujours ce qui est là où on attend le stoïcien. Pour Thomas d'Aquin, c'est Aristote qui, grâce à l'amour d'amitié, pour que je l'aime et je sois un avec lui dans son amour pour le Père. Ou, au contraire, le point de vue de l'amour est-il ordonné à vivre du Christ comme modèle ? Les stoïciens, dans leur morale, ont un très grand sens de l'exemple, de l'exemplarité. Ça, c'est très net. Aristote en parle très peu. Les stoïciens en parlent beaucoup. Mais pour les stoïciens, l'exemplarité demeure ce qui a d'ultime. La morale chrétienne, tout en se servant au point de départ du stoïcisme, elle le dépasse, puisqu'il s'agit d'aimer, et non pas uniquement de regarder Jésus comme modèle. Et Saint Jean dépasse symbole en disant qu'il s'agit de demeurer avec Jésus. Alors quand il s'agit de demeurer avec le Christ, maître, où demeures-tu ? Première question de Saint Jean. Saint Jean ne pose pas la question « Comment puis-je t'imiter ?» Ça, ce serait le stoïcien. Mais Saint Jean est très peu stoïcien, ou il l'est d'une façon supérieure. Et la question, maître, où demeures-tu ? Où as-tu dressé ta tente ? Il veut demeurer avec Jésus. Demeurer avec quelqu'un, c'est plus que l'imiter. Et cela exprime magnifiquement à la fois qu'on l'admire, puisqu'on veut demeurer avec lui. Mais on l'admire pour l'aimer. Et ce qu'on veut, c'est être un avec lui, en demeurant avec lui. Et c'est pour cela que c'est à l'intérieur de la révélation johannique qu'on peut le mieux découvrir ce qui caractérise la morale chrétienne. Saint Jean ne nous rapporte pas le discours sur la montagne. Je crois que Luc le donne d'une manière tellement forte que Jean n'a plus rien à dire, puisque sans doute ça vient de lui. Ça ne m'étonnerait pas. Oui, chaque fois que Luc reçoit quelque chose de Jean, Jean ne le reprend pas. Et chaque fois que Luc dit quelque chose qui ne vient pas de Jean, Jean le corrige. C'est curieux, ça. Il y a un nouveau livre qui est apparu sur les évangiles, qui me paraît intéressant du reste, et qui veut les dater surtout, et qui montre que l'évangile de Saint-Luc est le premier, et que l'évangile de Jean est le dernier. Et puis tu trouvais l'évangile de Marc avant, et là il met l'évangile de Luc avant. Si cela est vrai, c'est intéressant, parce que savoir que l'influence de Jean est première et elle est dernière. Et elle enveloppe tout. Alors pour les béatitudes, c'est net. Saint Luc nous les donne. Et Jean nous montre la manière dont Jésus en vit. Et la manière dont Jésus en vit nous permet de comprendre que les béatitudes ne sont pas une super loi, mais sont une vie d'amour. les béatitudes évangéliques. Ce serait le suprême code. Or, les béatitudes évangéliques ne sont pas un suprême code. Les béatitudes évangéliques représentent une manière de vie, mais pas un style de vie. L'amour divin imprégnant tout l'homme. Et Jésus vit de ses béatitudes, surtout à la croix. Là, il en vit d'une manière ultime. Et on pourrait dire que toute la vie du Christ, telle que Jean nous la montre, dans son évangile, nous montre Jésus vivant des béatitudes. C'est très, très beau, tu vois ça. À voir. Et nous étions arrivés après la béatitude des pauvres, la béatitude des pacifiques. Bienheureux les pacifiques. C'est le fruit direct du don de sagesse. C'est la crainte qui nous conduit vers la sagesse. La crainte, c'est le don. C'est la pauvreté. C'est le don de crainte qui nous donne le sens de la transcendance de Dieu. Et le sens de l'amour que nous devons avoir pour lui, c'est-à-dire un amour qui respecte entièrement et totalement le bon plaisir du Père sur nous. On veut le suivre. On veut l'aimer en le suivant. Et le don de crainte nous conduit au don de sagesse. Si Dieu nous demande de craindre, la crainte d'amour, c'est pour ne pas abîmer la transcendance de Dieu, ce qui caractérise le mystère de Dieu, le mystère de Jésus. Pas faire de fausses alliances, de faux alliages. Le don de sagesse, qui est le don contemplatif, habitus contemplativus, dira Thomas d'Aquin. Cet habitus de sagesse, par le don de sagesse, implique la contemplation, une contemplation amoureuse. C'est l'intérieur, à l'intérieur de l'amour, nous découvrons la présence de Dieu. Et nous vivons cette présence de Dieu. Puisque c'est par l'amour et la charité qu'il y a un contact direct et immédiat avec Dieu. Et ce contact direct avec Dieu n'est pas une fusion panthéiste, n'est pas un nirvana, mais c'est un face-à-face, une présence. Pour qu'il y ait présence, il faut qu'il y ait deux personnes. Et ces deux personnes sont une et l'autre. Le Christ et nous sont intimement unis dans l'amour, dans l'Esprit Saint. Mais en se respectant pleinement, l'une est Dieu, l'autre est créée, jusque dans sa personne. La contemplation fait vivre de cette présence aimante de Jésus qui se donne à nous. À la croix. C'est à la croix où nous découvrons de la manière ultime ce qu'est la contemplation chrétienne. contemplation qui se réalise dans la lutte, une contemplation qui se réalise dans une mort à nous-mêmes, grâce au don de crainte, grâce à la pauvreté, et qui implique tout le temps une sorte de résurrection. Et c'est vrai, le don de crainte nous fait vivre de la résurrection du Christ, c'est-à-dire de cette victoire de l'amour sur tous les pièges humains, sur toutes les tentations, sur toutes les cruautés, sur toutes les souffrances. Et c'est bien à l'intérieur de l'amour divin qu'il y a ce regard contemplatif. Jésus vivait de cette contemplation d'une manière parfaite, ayant dans les sommets de son âme humaine, dans les sommets de son intelligence humaine, la lumière de gloire qui lui permettait de voir Dieu face à face. Et depuis, Jésus n'a cessé de nous communiquer ce bienfait du don de sagesse et du regard sur Jésus contemplatif. Jésus sage est dans sa contemplation d'une manière toute nouvelle. La contemplation chrétienne pour le chrétien, c'est le sommet de toute sa vie chrétienne, ici-bas. C'est le reflet dès ici-bas de la vision béatifique. C'est le centuple que Jésus donne aux pauvres dès cette terre. Celui qui suit Jésus a tout quitté pour le suivre. Et ceci sous l'emprise du don de crainte. Sous l'emprise du don de crainte, nous pouvons tout abandonner d'une manière efficace et réelle. Ce n'est pas un idéal qu'on vit alors, mais d'une réalité. Et cette réalité, c'est Jésus, le plus pauvre de tous. C'est le mystère de la pauvreté du Christ. Il n'a rien à lui. Il est totalement relatif au Père. Cette pauvreté de Jésus, qui est notre pauvreté, à la mesure où nous acceptons nous-mêmes de disparaître en face de l'amour du Père, pour que cet amour du Père prenne tout. Et nous pouvons déjà, dès cette terre, être présents à l'amour du Christ pour nous. Et cette présence à l'amour du Christ pour nous, cette présence vécue, faiseur de paix que si l'on vit l'Église